Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir et de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors, au lendemain du 14 juillet et pour tous les jours qui suivent, je veux ce soir partager avec vous une citation de Charles de Gaulle. Je cite « Nous sommes d'accord, vous et nous, pour que toute oppression et toute hégémonie soient bannies de notre univers. » Fin de citation. Qu'il s'agisse d'une oppression individuelle face à une maladie ou un acte immoral, qu'il s'agisse de l'oppression d'un peuple comme il en est encore dans le monde, qu'il s'agisse d'une situation injuste ou considérée comme telle, notre responsabilité individuelle est de résister et de combattre la fatalité dès qu'on le peut. Espérons ainsi que dans un an, le 14 juillet 2022 sera sans pluie, sans virus et avec la fin des oppressions révoltantes. En attendant de vous écouter, dans la libre antenne, appelez-nous au 3921 pour partager vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur, vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la libre antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1 dès demain. Et pour le moment, l'équipe est manifestement aux aguets. L'équipe est prête, il y a de la place au standard du 3921, donc appelez-nous. Et c'est Fred Dervin qui est aux commandes ce soir. À tout de suite.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Nous accueillons tout de suite notre premier auditeur. Bonsoir Max.
Comment allez-vous?
Ben ça va, et vous?
Vous voyez, fidèle à la Sanade, à son retour.
Ben ça fait extrêmement plaisir.
Oui.
Ça fait très très plaisir, Max.
Ben oui, toujours pareil, hein, toujours à l'écoute.
Merci, merci de votre fidélité. Merci infiniment. Et d'ailleurs, je remercie tous les auditeurs fidèles depuis des années à la Libre Antenne.
Voilà, donc...
Max, à chaque fois que vous nous appelez, c'est toujours un message d'espoir, un message optimiste, un message porteur d'énergie.
Oui, parce que je fais partie des gens qui sont persuadés que le paradis et l'enfer, c'est sur Terre. Donc il faut le vivre, le paradis. Il est là.
Oui.
Hein? Après, on ne sait pas. Donc, je ne connais pas que c'est revenu. Donc, moi, je crois que le bonheur, il est là. Quoi. Il faut vivre à fond dans ses rêves, dans ses souhaits. Et puis, éviter de trop se poser de questions, il faut y aller. Hein. Voilà, on en est là. Bon, bah, moi, je suis en quête toujours de... J'ai ma maman aussi, qui a 91 ans, qui rentre dans un EHPAD. Je lui fais un petit coucou.
Et ben, on l'embrasse. Votre maman, qui s'appelle comment?
Bernadette.
Eh bien, Bernadette, on l'embrasse.
Qui est d'origine italienne. Je vous explique pas la pêche qu'elle a. Ah oui. Je l'ai eu tout à l'heure, parce que c'est éminent. Le 23 juillet, elle rentre. Avec mon frère aîné, on est en train de s'occuper des démarches. Elle me dit, j'espère que tu viendras me voir avec ta chérie. Hein. Je dis, maman, sois patiente, elle arrive. Elle me dit, je ne sais pas en quelle année. Alors, elle a rigolé. Non, mais je suis contente pour elle, parce qu'elle vivait seule à Lyon. Et c'était un souci, quoi. Moi, en plus, je suis non-voyant, vous le savez. Donc, je suis plus disponible comme avant. Oui. Mon frère n'est pas très loin, donc il n'arrêtait pas de faire des allers-retours dès qu'il y avait un souci. Donc là, elle sera prise en charge, voilà, elle rentre dans un bel établissement, dans le Mâconnais, pas loin de chez mon frère aîné, qui a une propriété là-bas, donc voilà, c'est parfait. Je suis content.
Bon.
Je suis rassuré, surtout.
Et elle se sent comment, à l'idée de...
Ah ben, ma mère, elle a une pêche... Oulala, ma mère, c'est attention. Hein. Oui, c'est 100 000 volts. Hein. Je vais falloir la gérer à l'EHPAD, hein. Qu'on voit la direction, hein. Bah, elle faisait encore le marché toute seule, elle bougeait, elle voyait ses amis, ses copines de quartier à Lyon. Oui, c'était dynamique, mais le problème, c'est que des petits problèmes de santé sont arrivés, hein, 91 ans. Bah voilà, elle était tombée une ou deux fois, puis voilà, elle est seule, donc forcément, c'était de l'inquiétude, quoi.
Oui.
Donc voilà, on est rassurés, ça c'est parfait.
Oui, c'est le principal.
Oui, c'est le principal.
Et puis surtout, si ça lui plaît, alors là, ce sera vraiment...
Oh heureux. Bah, il a fallu quand même... se la jouer fine, hein, pour qu'elle rentre, parce que il fallait trouver les bons mots, parce qu'elle n'était pas partante à 100%, hein. Elle reste autonome. Le fait de plus cuisiner, par exemple, comme elle adore cuisiner. Mais bon, elle va pouvoir bouger. On va la recevoir et puis elle nous fera ses spaghettis maison. Il n'y a pas de souci.
Qui c'est qui a été des deux fils le plus influent? Qui a su être le plus convaincant des deux?
Ouais, je pense que je suis plus à l'écoute que mon frère aîné.
Oui.
Qui est en retraite aussi, mais lui... Enfin, moi, j'y suis dans un an en retraite, d'ailleurs, officiellement.
Oui, parce que vous êtes jeune encore, Max. Hein,
je viens d'avoir 61 ans. Hein.
Ah, ouais,
ouais.
Bah, si.
C'est le début. Hein,
vous avez encore toute la vie devant vous, Max.
Ben, j'espère.
Ben, oui. Avec une maman qui a 91 ans, on peut dire qu'il y a des gènes qui sont plutôt prometteurs pour vous.
Oui. C'est vrai que ça donne de l'espoir.
Ah, ouais, absolument.
Mais mon frère, il est très occupé, comme tous les retraités. Il fait plein de choses, donc... moi, je suis un peu plus à l'écoute. Hein. Moi, j'ai un peu plus de temps. Moi, j'ai moins d'activité que quelqu'un qui a la vue, forcément. Hein. Je suis plus disponible pour au moins l'écouter et lui parler. Voilà, donc ça a pu influencer son départ en EHPAD.
D'accord.
Voilà.
On est en train de revivre un petit peu plus. On respire en tout cas un petit peu plus ces derniers temps. Max, est-ce que vous-même... vous sentez les choses évoluer autour de vous, puisque vous ne les voyez pas, mais est-ce que vous sentez des vibrations différentes? Est-ce que comment ça se passe en ce moment pour vous?
Bah moi, ça se passe forcément, puisqu'on peut un peu plus bouger, hein, forcément.
Mmh.
On peut au moins s'installer sur une terrasse, prendre un café.
On peut
aller au restaurant. J'ai envie de dire à tout le monde qui voudrait écouter, surtout vaccinez-vous, hein, parce que c'est important.
Mmh.
Hein, c'est le seul remède qu'il y a aujourd'hui pour s'en sortir. Hein. Il n'y en a pas 36.
C'est sûr.
Voilà. Ça, c'est dit.
je partage, hein, forcément, donc je vais en froisser certains. Mais bon, on a l'habitude des diatribes. Hein, c'est comme ça. Donc,
Oui, et puis ceux qui sont contre, on peut le comprendre.
Oui, ils ont leurs raisons, mais bon, après...
Ils ont des raisons, mais forcément, mais dès qu'ils vont dans un hôpital voir à travers une vitre quelqu'un qui est en réa, ça calme, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais c'est vraiment une saloperie qu'il faut vaincre à tout prix par le vaccin. Mmh. Hein. Mmh. Vous savez, quand on est bébé, je crois que c'est 11 molécules qu'on nous injecte. Hein. C'est pas 11 vaccins, mais il y a beaucoup de vaccins obligatoires quand on est...
Justement, c'était un débat que j'ai eu avec un ami hier.
Oui.
Et bon, bah, on est encore trop. Enfin, moi, je suis encore très jeune, hein, comme vous, Max. Et je me demandais comment avaient été accueillis les vaccins obligatoires à l'époque. Est-ce que justement, il y avait eu autant de mouvements, de contestations? Je me demande vraiment, lorsque ces vaccins ont été obligatoire, comment ont-ils été accueillis à l'époque? Je vais me renseigner parce que c'est toujours très intéressant.
Oui,
mais comment avait-il été accueilli à l'époque? Est-ce que c'était
aussi... La tuberculeuse, ça fait des ravages. Ouais. Je crois que c'est la moitié de l'Europe qui est partie. Non, mais on a le bonheur d'être sur Terre où il y a des immenses chercheurs qui nous mettent des vaccins en place pour s'en sortir, au moins ne pas avoir la mort aux trousses, il faut en profiter. Hein.
C'est sûr.
Enfin, moi, j'en fais partie de ces gens-là. Hein. J'ai été vacciné très rapidement, moi.
Ouais.
J'étais volontaire, donc ça n'a pas traîné.
Toujours volontaire, Max.
C'est l'énergie qui est là. Maintenant, il faut toujours trouver des objectifs. Hein. C'est l'éternel refrain quand on ne bosse plus, quand on n'a plus ces, comme je vous ai dit plusieurs fois, ces hobbies, ces passions,
oui,
qui sont forcément mis en stand-by, voire en... Bah tiens, le vélo, j'ai écouté le Tour de France encore aujourd'hui, moi j'avais deux carbones, j'avais un Scott VTT, un magnifique trek américain en course, et je faisais beaucoup de vélo. Maintenant c'est fini, j'ai un bike chez moi, je tourne les jambes chez moi doucement, et c'est plus pareil, quoi, voilà, c'est différent. Donc il y a plein de passions qui sont parties, forcément. Hein. La moto, hein, regardez, la moto, j'ai fait 30 fois le tour de la Corse, parce que je suis passionné de la Corse, et forcément, ça me manque, ça, voilà. Mais bon, on trouve d'autres passions, voilà, qui arrivent comme ça, naturellement. Le son, la musique, là, je suis en train d'essayer de m'installer un petit... de développer des... Je cherche Chine, des vieux amplis anglais. Oui, j'adore le son, mais parce que j'ai développé les oreilles, forcément.
Et oui.
L'audition, elle a progressé.
Le toucher aussi, probablement.
Oui, 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 le toucher,
l'odorat.
Forcément. L'odorat, on s'en rend pas compte au départ, mais petit à petit, oui, oui, forcément. Mais le plus probant, c'est l'audition, hein. Ça, c'est.
Oui.
Oui, oui. Et ça nous sert énormément dans la rue, hein, parce que dans la rue, c'est, il y a pas que la canne, c'est beaucoup l'écoute. On arrive sur un carrefour, par exemple. Je vous parlais un peu de locomotion, hein. Locomotion, c'est tout l'art de se déplacer qu'une canne.
Mmh.
On arrive à un carrefour, il y a pas de feu. Bon, on cherche déjà le passage piéton, hein. Il y a des petits picots, il y a des détecteurs sur, juste avant, généralement ils sont en place. Mais après, il faut écouter parce que pour passer, hein, c'est l'écoute. On sait pas, les vélos, c'est très dangereux parce qu'on ne les entend pas arriver. Donc, faut être à l'affût vraiment du moindre bruit qui peut nous alerter, quoi.
Oui, et puis avec les voitures électriques aussi, on ne les entend, on
alors,
les entend pas.
Bien.
Ouais.
Ah ben là, vous mettez le dos. Ah oui, oui. Alors, je pense qu'ils sont en train de créer un. J'en ai discuté avec. Je peux la citer, c'est Valentin. Oui, c'est l'Association nationale à Paris.
Monsieur.
Qui s'occupe des déficients visuels. C'est là où je prends tout mon matériel, moi. Rue du Roc, dans le 7e. Ils sont en train de créer un boîtier qui sera connecté sur le smartphone qu'on a, parce qu'on a des smartphones pour déficients visuels. Et sur un boîtier qu'on aura sur la canne électronique qui va nous émettre des sons quand il y aura une voiture qui va passer, quoi.
C'est formidable. À chaque fois, Max, vous nous donnez des infos. Je suis fan.
Oui, mais c'est le matériel c'est évolue super. D'une force.
Ouais.
Vous prenez déjà le GPS piéton. Ça paraît pas, mais pour nous, c'est une richesse. Hein,
ouais.
Vous voyez, on va dans une adresse qu'on connaît pas, on suffit de demander l'adresse, on la rentre et ça nous amène devant la porte, quoi. C'est génial. Hein.
Et ce GPS piéton, il est, c'est une application qui est accessible à.
C'est ça. Il est sur le Bluetooth, il est en Bluetooth ou en filaire si on a pas de Bluetooth. Il est sur une application sur le smartphone pour déficients visuels ou d'autres marques, sans les citer. Oui, faut installer l'application. Ouais.
D'accord.
Oui. Non, mais ça va très bien, hein. C'est super. Hein.
Et le moral, comment va-t-il, Max ?
Le moral, il va bien. Hein. Il va... Oui, je ne veux pas dire que ça ne va pas, au contraire. Je suis toujours en quête de ce que vous pensez. Hein. Je l'attends, hein. La boussole du cœur.
À ce point-là, je n'ai toujours pas réglé.
Mais j'ai fait quelques rencontres. Oui, mais je ne regrette pas. Hein. J'ai rencontré, c'est que j'étais partie prenante, mais ben, je cherche vraiment une personne qui soit comme moi. Moi, je suis libre, hein, c'est-à-dire que j'ai pas de sac à dos rempli de casseroles. Comme je dis, faut être disponible et libre pour la réussite, je pense. Hein.
Oui.
S'il faut arriver avec plein de problèmes, déjà la disponibilité, hein, moi je suis disponible même sur le plan géographique. Vous savez, quand je vous avais eu la dernière fois, j'étais en train de faire mes cartons.
Mais justement, ça c'était la deuxième question, c'était quand vous nous aviez contacté, voilà, il y avait un déménagement en cours. En tout cas, vous étiez en plein carton et en pleine réflexion sur qu'est-ce que je...
J'en suis toujours là.
Ah d'accord.
J'ai pratiquement... j'ai gardé le courant, ce qui me fait tourner à la maison, mais tout le reste, c'était déjà en carton, parce que j'ai un cellier fermé. Donc, oui, je cherche des pistes. Je salue une non-voyante qui s'appelle Jackie de Nice, que j'adore et qui a créé Mozart. Hein, une association, elle s'occupe, Jackie, elle est prof de piano à la retraite, et elle a créé Mozart qui s'occupe des autistes.
Elle nous a contactés, je l'ai eu.
Ouais, elle vous connaît. Ouais, elle est adorable.
Ouais, très bien, franchement.
Donc
bravo,
voilà, grâce à ce genre de personnes que j'ai en réseau, si vous voulez, Sana, je prends des contacts. Mais bon, après, faire le pas, je suis pas bon. Hein, je vous les ai dit, je suis pas en décision. Je pense que c'est que l'amour qui peut me faire bouger aujourd'hui. Mais bon, peut-être que je me fais des films. Hein, c'est peut-être à moi de bouger. Et après, c'est le destin qui jouera sa part de bonheur.
Bah oui.
Mais j'ai du mal vraiment à prendre la décision. J'ai quelques pistes encore, mais qu'à faire le pas, je suis très hésitant. Alors pourquoi, je ne sais pas.
Mais si vous le savez, forcément, Max. On a toujours la réponse en nous.
Oui,
donc,
je l'ai.
Voilà.
Je l'ai parce que faut que je sente les choses à 100%. Voilà, je suis un peu perfectionniste et oui, voilà, pour l'instant, ça ne le fait pas. Mais bon, ça va arriver, hein, force de prendre des contacts. Puis je vais bouger, là, je vais pas mal... Parce que grâce au déconfinement, on peut reprendre le train avec les SNCF Handicap. On est autonome, hein, quand même. Hein. On arrive à faire plein de choses, hein, les non-voyants. Hein. C'est ça qui est génial. Hein.
Vous avez prévu de partir quand et où?
Bah là, je vais partir en Corse, parce que je savais que j'habitais dans Ajaccio. Donc j'ai tous mes amis, j'ai plein d'amis en Corse.
Génial.
Donc je vais aller à Corté, là où il y a l'université, j'adore Corté. Je salue le patron du Cirné à Place Paoli, tiens, c'est un pote à moi. Oui, j'en ai à Bastia, j'ai un copain qui vit sur un bali à Bastia. Oui, je veux passer. Mmh. Alors quand je pars en Corse, je sais jamais quand je rentre.
Des fois,
je pars un mois, mais ça peut durer deux.
Ouais, je comprends, faut en profiter.
Oui. Vous voyez, j'ai hésité pour y retourner. Tiens, j'ai lancé des j'ai contacté les grosses deux associations nationales, dont la VH que je vous ai citée à Paris, puis une à Bordeaux aussi qui est puissante, on va la citer, c'est l'UNADEM.
Oui.
Je leur ai tendu la perche. Moi, il y a quelques années, j'ai fait l'étude pour s'occuper des déficients visuels en Corse.
Mm-hmm.
Ça n'a pas mordu, parce que la géographie de la Corse est très compliquée. Si vous voulez, pour venir faire venir des non-voyants de Bastia à Ajaccio, c'est 4 heures de Michelin. Ça calme, hein.
Oui.
Donc, il faut organiser des nuitées, des réceptions. C'est toute une organisation, d'accord, c'est ça. Ou alors, il faut trouver des gens avec des aidants qui ont des voitures. Là, ça change tout.
Mm.
Voilà. Mais c'est pas dit qu'un jour ça se fasse pas, parce qu'il n'y a rien en Corse. Il n'y a vraiment rien pour les déficients visuels. Hein. C'est un vide total. Hein. C'est tout à faire.
Ah, mais justement, c'est ça qui est
mais
intéressant.
Ça aurait pu être un beau projet. Mais vous savez, moi, j'y suis pas né. Alors, j'y habitais à l'année. Hein. J'ai habité 2 ans, puis j'habitais n'importe où, rue des Sanguinaires à Ajaccio. C'est quand même un bel endroit. Hein.
Mm-hmm.
J'étais pas loin de la maison de M. Tinor aussi, ça vous parle?
Ah oui, quand même.
Ben voilà, il avait une grosse propriété en flanc de mer avant les usines Sanguinaires, à la parade, ce qu'on appelle. Ah ouais, c'est magnifique où il était, Tinor aussi.
Mm-hmm.
Et alors, le problème, quand on n'est pas, c'est le fait que ce soit insulaire, une île. C'est quand on n'y est pas né, l'hiver, c'est un peu tristounet. Ça bouge moins. J'allais souvent sur le continent quand j'habitais quand même en Corse. Ça veut dire qu'il me fallait les deux quand même.
Oui.
C'est ça. Mais une maison secondaire, ça m'irait bien. Je n'ai pas dit mon dernier mot d'ailleurs. Ce serait pas mal avoir un pied-à-terre en Corse et puis avoir une chérie sur le continent. Ce serait pas mal ça, non?
Voilà. Donc on commence donc dans un premier temps par déménager. Donc on prend l'option 2, Max, finalement. Vous souvenez, vous m'avez dit, soit je continue et je me déplace parce que j'aurai enfin rencontré une chérie, soit sinon je me déplace et je rencontre la chérie. Et ça fait quand même 3 saisons que je vous suis, finalement.
Oui.
Et on n'a pas encore solutionné ce...
Non, je ne l'ai pas solutionné parce que je... Ben, c'est toujours le même refrain, moi. Hein. Je suis ceinture noire de judo, mais je suis ceinture blanche en décision. Je suis plein d'action, mais j'ai toujours le frein à main. Alors, j'attends le déclic. Mais là, c'est imminent. Comme maman, je suis rassuré que maman... Parce que j'étais quand même pas bien loin d'elle. J'étais à 1h30 de train de Lyon. Donc là, je vais pouvoir quand même bouger. Puis elle me donne le feu vert. Elle me dit, vas-y, fais vite. Vis à fond. Attends pas comme moi qu'on te place dans un EHPAD quand tu seras mieux. Elle me disait ça tout à l'heure.
Elle a raison.
Eh oui. Mais bien sûr qu'elle a raison. C'est certain.
Donc,
je dis que le paradis, il est sur Terre, Sana. J'en suis persuadé.
J'en suis persuadé aussi. Et vous avez votre place. Vous y avez une belle place même, Max.
J'espère.
Donc nous, on a déjà fait des appels aux auditrices en disant « voilà
si. ».
Ah ouais, y avait eu pas mal de SMS hein, chaque fois où en fait, il a l'air très sympa.
Rencontré une personne grâce à vos contacts qui est venue, je ne vais pas la citer, mais qui est venue, voilà, elle se sortait pas de son ex-histoire. Donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait un souci là.
D'accord.
Mais il faut être libre hein, quand on a envie de rentrer en relation amoureuse avec quelqu'un, il faut faire race du passé, autrement ça ne peut pas marcher. Hein.
Alors avant d'être libre, il faut d'abord être disponible. Mais quand je dis disponible, c'est vraiment se dire, j'ai envie, et non pas j'ai besoin, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un.
C'est ça.
Parce qu'on a tous quand même des histoires, des ex, des erreurs du passé... Voilà, donc une valise quand même qui peut être pleine, mais néanmoins, si on en a l'envie et qu'on se dit, voilà, je, j'ai envie de me donner une chance. Pourquoi pas?
Oui, l'envie d'une nouvelle expérience amoureuse, mais surtout pas remplacer une histoire d'amour par une autre, ça marche
non.
pas. Comprenez?
Non. Non, c'est clair.
Voilà,
c'est clair,
c'est ce que j'ai vécu récemment avec la personne. Là. C'est dommage, parce que c'est une chouette personne, mais bon, voilà, elle était sincère. Elle avait encore cette personne dans la tête. Donc ça ne peut pas marcher.
Max, je vous le redis, avec beaucoup d'amitié et de sincérité.
Oui.
Vous vous souvenez, je vous le redis encore une fois, Max, quand on veut, quand on veut rencontrer la femme de ses rêves, il faut d'abord devenir l'homme de ses rêves.
Faut que je me séduise.
Il faut d'abord que vous alliez vers ceux dont vous avez envie, ceux dont vous avez besoin.
Oui.
Vous avez, on peut imaginer un appartement plein de cartons, d'accord? Donc là, il serait temps de partir, il serait temps d'écouter vos envies, de balayer d'un revers de la main cette peur qui peut devenir vraiment une alliée. Hein. Là, elle vous bloque, mais elle peut devenir une alliée par... la peur est par conséquent de développer de l'anticipation en disant voilà, s'il m'arrive ceci. Donc surtout faites de la visualisation, c'est très important. Visualisez-vous avec un environnement différent, des vibrations différentes, des sons différents, puisque vous êtes très sensible au son.
Oui,
d'accord.
C'est vrai.
Donc, et il faut y croire, encore une fois. Donc trouvez votre bonheur et je vous assure que quand on est heureux, ça vient tout seul.
Oui, c'est clair que l'énergie, elle est là naturellement parce qu'on se sent bien là où on est.
C'est exactement ça. Oui. Des aimants, vous devenez un aimant.
Ah oui, c'est pas mal. Je visualise bien l'aimant.
Mm.
Je cherche l'aimant inverse.
Oui, non, mais c'est ça, fort. Et vous êtes fort, Max. À chaque fois que je vous ai en ligne, c'est toujours une énergie incroyable, c'est toujours une volonté. C'est.
Bon. C'est comme je vous ai dit 20 fois, c'est mes fondamentaux aussi, c'est mon parcours. 17 ans libéral, indépendant, dans un métier où il fallait se battre. On va dire encore le judo, depuis l'âge de 6 ans sur un tatami, à faire de la compète jusqu'à 27. Ça pardonne pas, ça laisse forcément des... Et quand je suis tombé non-voyant, tout le monde me disait « comment tu fais ?» Je dis « j'en sais rien, comment je fais ?» Mais c'est parce que j'avais accumulé des expériences d'énergie, où il a fallu en chercher l'énergie qui me servent aujourd'hui. Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est le parcours d'une vie qui fait qu'on a la pêche ou pas. J'en suis sûr. Enfin, pour moi, ça marche comme ça.
Vous savez ce qui m'a marqué la première fois que je vous avais eu en ligne, Max, c'est que vous ne me laissiez quasiment pas parler.
Ça va mieux, là.
Mais carrément.
Ah, merci, docteur.
Mais carrément.
Pris une ordonnance, ça n'a, non.
Non, mais l'évolution, vous voyez, on peut échanger, vous êtes vraiment à l'écoute. Oh, mais ça y est, vous êtes prêt, quoi. Allez-y. Mais
elle va arriver, à quelle heure?
Je sais pas, alors attendez. Je vais sortir ma boule, je vais vous dire ça, hein. Irma.
Allez-y. Comment vous dites, Irma?
Oui, mais vous savez, comme ou Madame Soleil, ou voilà... Bref, en tout cas, mais oui, vous le savez, moi je vous souhaite, comme à tout le monde d'ailleurs, à tous nos auditeurs, je vous souhaite vraiment de l'harmonie, de l'équilibre. Je ne vous souhaite pas du bonheur ou d'être heureux, parce que c'est des choses qui peuvent être vraiment éphémères. Mais voilà, d'être serein, d'être apaisé, d'être aligné, d'être en équilibre, d'être en harmonie, ça c'est accessible. Le bonheur, ça vient, ça va, voilà.
Sachant qu'on peut être heureux tout seul aussi, hein, on peut être vraiment...
Bien justement.
J'en suis persuadé. Hein. Moi, il y a des matins, je me lève, j'ai vraiment la frite. J'ai envie de faire plein de choses. Mais bon, l'essentiel n'est pas là parce que j'ai envie de partager. Moi, j'ai envie de faire des choses à deux.
C'est
voilà,
clair.
Je suis là. Mais autrement, j'en suis pas une fixation. Hein. Je suis sur aucun réseau. Hein. Vous n'allez pas me trouver sur Internet. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Je n'y vais pas. Alors que je suis équipé, je peux le faire. J'ai un ordinateur avec les synthèses vocales. Mais bon, voilà. Après, moi, je crois plus à la rencontre naturelle, quoi, qui sera celle des qui sera naturellement. J'en suis là.
Ouais. Moi, je.
La route est longue, hein.
Oui. Elle est longue. Elle en vaut le coup, encore une fois.
Oui.
Et puis avec votre mental.
Vous savez, le mental.
C'est ce qui fait tout.
C'est déjà l'énergie, il faut la trouver en soi. Hein. Mais vous le savez, ça, là, si, on peut pas être heureux avec quelqu'un si en soi on est faible. Hein. Ça peut pas marcher. Si on cherche une béquille, une infirmière ou une, c'est pour ça que la non-voyance, quand on parle des non-voyants comme je fais partie, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. J'en rencontre hein, des dames en marché, au Monoprix du coin, ils me connaissent hein, à l'année, ils me voient souvent. Je vois souvent, il y a des blocages. Ah, comment vous faites ci, comment vous faites ça? Mais je dis, venez chez moi, vous allez voir que moi, chez moi, on ne se rend pas compte que je suis non-voyant. Mais j'en connais plein qui ont ce discours-là, hein, dans les non-voyants. On est tellement habitué, bon, tout est rangé, hein, faut être carré, hein.
Oui, organisé.
Tout est au millimètre.
Oui.
Ah oui, il faut être très organisé. Mais ça se fait naturellement. Et puis maintenant, il y a la technologie, c'est extraordinaire. La machine à lire, regardez, je vais au courrier. Je passe mon courrier dans la machine à lire, j'écoute mon courrier. J'ai un petit stylo qui s'appelle le Penfriend. On crée ses propres étiquettes sonores, c'est-à-dire c'est des petits post-it hein, adhésifs qu'on colle n'importe où on veut, sur une pochette de CD, sur une chemise, mettons impôts. Voilà, je reçois un courrier des impôts, je cherche ma pochette impôts avec mon stylo que j'ai créé, j'entends chemise impôts, et je suis tout seul, j'ai classé tout mon courrier. Je suis autonome. C'est incroyable, c'est il y a 3 ans que je l'ai, ça m'a sauvé la vie, ça. Avant, j'appelais un copain, une amie, tiens, j'ai du courrier, je sais pas ce que c'est. Non, voilà, on est autonome, quoi. C'est ça qui est génial depuis qu'il y a la technologie qui se met en place, là, c'est... Et puis, je peux vous dire que ça progresse, là, je suis à l'affût de tout ça, moi, c'est...
Ah oui, on l'entend, c'est... Bon.
Là, il y a une canne électronique, enfin, elle existe depuis des années, la canne électronique, mais il y a un nouveau boîtier qui vient de se créer, là. Il va être connecté à un smartphone. J'ai fait le citer, ouais, je ne vais pas citer la marque parce que c'est français, qu'ils l'ont créé pour les non-voyants, mal les non-voyants.
Au lieu d'émettre
des vibrations, mais non, ça va être du son.
D'accord. Vous pouvez citer la marque.
C'est Société Capsis à Antipolis.
Ben voilà.
C'est via tout le pôle des nouvelles technologies à côté d'Antibes, Antipolis. Voilà, la Société Capsis qui font de la téléphonie, ils font que ça, hein. Il y a à peu près 10 employés, ils sont super sympas, et ils font, ça s'appelle le Smart Vision 2, voilà, c'est leur dernier téléphone, voilà, qui va très très bien, qui est très performant, voilà, qui va être développé en 5G l'année prochaine, parce qu'ils vont en sortir un nouveau, mais voilà, c'est génial, quoi, on écoute nos mails, on envoie des mails, on rentre tous nos comptes. On est autonome. Moi, j'envoie des SMS, je les tape à la main. Je les dis même pas. Il y a une fonction vocale. Mais moi, je l'utilise vraiment avec le clavier. Je vais aussi vite que quand j'avais la vue. Hein. C'est incroyable. Parce que, on maîtrise. Au bout d'un moment, on maîtrise.
Max.
Et ça aide beaucoup, ça, là. C'est extraordinaire. Hein.
Alors, pardonnez-moi, je souris, mais parce que vous venez de recevoir un SMS.
Ah bon?
Ouais, il faut que je vous le lise. Qui est génial.
Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit?
Alors... Ce SMS vous dit, dites à Max que j'arrive. 3 points d'exclamation.
Oui.
Et la personne s'appelle Sophia et elle a laissé ses coordonnées.
Elle arrive, mais elle arrive où?
Ah bah ça après.
Non mais c'est Sana, moi je déménage, elle arrive où?
Non, la suite vous appartient.
Vie.
La suite vous appartient, vous le savez, Max. Et puis, je vais écrire à la cellule recherche et développement de cette société Capsis, c'est ça?
Alors, société Capsis.
Capsis.
C'est super, Sana, que vous êtes sensible à ça.
Ah ben, le monde du handicap, oui, j'y suis extrêmement sensible.
Alors, Capsis, Cap, K-A-P, plus loin 6. Mm-hmm. Et
ils sont sortis. Je vais leur écrire pour vous aider à trouver votre âme sœur.
Ah oui, ils me connaissent. eux, ils sont plus en train... eux, ils voudraient que je développe la Corse. Ils voudraient que je fasse leur commercial.
Mais pourquoi pas, encore une fois, vous en avez vraiment...
C'était mon métier aussi.
Entrepreneur à l'époque.
Je démarchais de l'impression, je vous avais dit. J'étais sur des gros marchés. Mm. Oui, je sais prendre le téléphone et démarcher. C'était mon métier, moi. Moi, il y a 17 ans, j'ai connu la page blanche, hein, j'ai pas honte de le dire. Je démarchais des grands groupes et j'ai eu le bonheur d'apprendre un métier avec mon père, qui était imprimeur, bien sûr, qui avait une imprimerie. Et moi, j'ai pris mon envol rapidement avec lui, mais il m'a tout donné jusqu'à la fin. Il est mort jeune, mon père, il est décédé, il avait 67 ans. Et il m'a tout donné, lui, je lui dois tout, il m'a tout donné. Ah oui. Le métier qu'on exerçait grâce à lui, c'est-à-dire qu'on allait vendre du savoir, nous, de la technique. Après, il arrive Internet, j'ai commencé à souffrir parce que ça évolue, l'évolution était. Moi, les gros, pour faire court, les gros clients, je les emmenais au pied des machines. Et là, j'avais tout gagné, quoi. On leur montrait comment était fait l'édition, par exemple, un livre, le façonnage, la couture fil, tout ça. Voilà, quand un acheteur, un directeur des achats voyait comment c'était imprimé, comment c'était façonné, bah, il était rassuré, il y avait des bons intervenants après au téléphone pour les livraisons urgentes, tout ça. Bah, voilà, c'était comme ça que dans le temps on bossait. Enfin, je dis dans le temps, il y a encore une 15-20 ans. Et ça marchait pas mal. Bon, maintenant ça a bien évolué, hein. Maintenant, les acheteurs, dans un clic, ils ont les 5 meilleurs prix européens, voire mondiaux. Oui, ça a changé, hein, le monde de la technique.
Donc, c'est possible aussi pour vous, Max. D'accord.
Oui.
Je compte sur vous.
Vous comptez sur moi. Alors, je vous enverrai un Bristol.
Voilà. Avec une invitation.
Alors, si on publie les bancs, vous serez invité, Zana.
Bah, oui, oui, je vous l'ai dit, je viendrai.
D'accord. Alors là, ça me toucherait. Hein.
Je tiens toujours mes promesses.
Ah, oh, mais ça, j'en doute pas. Et vous voyez, dès que je sais que vous êtes à l'antenne, j'appelle. Hein.
Oui, merci Max, merci infiniment. Et en plus, ça tombait bien.
Il y a 2 jours. D'ailleurs.
Parce qu'il y avait de la place. Et il y a
oui,
de la place.
Gentil.
Donc, contactez-nous au 3921. Max, je vous embrasse.
Merci, Sana.
Merci de me donner vos nouvelles. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ouais. Et puis, il y a Sophia qui vous attend. Donc, ne raccrochez pas.
Je vais savoir son téléphone.
Ne raccrochez surtout pas.
Merci, Sana.
À très bientôt.
Je vous dis bonne route.
Merci à vous aussi. Prenez
Merci
soin de vous.
À vous.
Sana Blanger est à votre écoute sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à minuit et nous accueillons tout de suite Laszlo. Bonsoir Laszlo.
Bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci. Je voulais remercier vos collaborateurs qui m'ont accueilli si gentiment.
Ah, mais on a une équipe de choc, Fanny et Bastien.
Oui.
Et puis à la
voilà.
réalisation, il y a Fred. Oh, ils sont top.
Et oui.
Hein. Ouais. Merci.
Oui, oui. Et moi, ça fait des années que je vous suis. Alors à l'époque, vous n'y étiez pas.
Non.
C'était Sophie Peters. Sophie. La toute première. Je ne me rappelle plus son prénom.
Oh, il y en a eu pas mal.
Mais à l'époque, ça. Oui, j'ai vu arriver petit à petit les présentateurs, parce que je me souviens qu'à l'époque, ça commençait à minuit et ça finissait à 2h du matin.
Eh oui, et puis finalement, on a demandé à se coucher un tout petit peu plus tôt.
Voilà, parce que je suis accro à la libre antenne.
Ah, merci. Eh ben,
Il y a tellement de choses humanistes dans toutes ces personnes qui interviennent.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai que des fois, ça fait chaud au cœur quand même d'entendre certaines choses qui sont difficiles.
Oui.
Mais voilà, ça nous dit que finalement, malgré nos petits tracas, ben voilà, on peut mettre le mouchoir de côté.
J'adore l'image. C'est exactement ça. Donc vous mettez les moucherons de côté.
Oui.
Ah, j'adore l'image. Superbe. Effectivement. Donc vous balayez d'un revers de la main, vous soufflez dessus. Comment vous faites, Laszlo?
Voilà, je laisse repartir au loin.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Dites-nous, qu'est-ce qui vous arrive, Laszlo?
Alors,
en tout cas,
moi, je vous appelle.
Un petit peu, ouais.
Oui. Moi, je vous appelle pour que c'est un témoignage positif et joyeux. Alors, je suis malvoyant. J'entendais votre
Max.
Prédécesseur qui était malvoyant aussi.
Oui.
Et c'est vrai que maintenant, avec toute la technologie qui existe pour les malvoyants et les non-voyants, c'est remarquable.
Super.
On peut faire beaucoup de choses. On peut se déplacer plus facilement. Et puis moi, je sais que j'habite dans le centre de la France et je me débrouille, comme il disait, tout seul, tranquille, je fais mes courses, voilà. Et puis, ça fait maintenant 11 ans que je suis avec ma compagne.
D'accord.
Qui est atteinte d'une sclérose en plaques.
Ah.
Voilà, donc ouais. On se soutient mutuellement.
Je comprends.
Et puis, cette année, on a décidé de se marier.
Ah, félicitations, c'est super.
Voilà, donc ça sera pour le mois de décembre, le 17 décembre.
Ah bah félicitations.
Merci.
Cette date, elle a été choisie. Est-ce qu'elle est, elle porte un symbole pour vous ? Est-ce que c'est...
Oui, pour nous, oui, puisque c'est le jour où on s'est rencontrés.
Ah, c'est formidable. Et donc, il y a 11 ans.
Il y a
11 ans.
Ah, voilà, 11 ans.
Ah, c'est formidable. Bah, écoutez, je suis très contente pour vous. Vraiment. En plus, là, vous allez pouvoir festoyer avec toute la famille, les amis.
Oui. D'accord. On a prévu. C'est prévu.
Et l'organisation, ça se passe comment ?
Eh bien, là, on est en train de faire les faire-part. Alors, moi, elle, ma future femme ne sait pas servir d'ordinateur, donc voilà. Mais bon, moi, avec mon ordinateur qui est adapté, elle me dit ce qu'il y a, ce qu'elle voit, parce que moi, je ne vois pas beaucoup, je suis très malvoyant.
Ouais.
Et ensemble, on choisit les cartes, les photos qu'on veut mettre sur les faire-part.
Ah, très bien.
Donc voilà. Donc là, on a un gros préparatif pour le mariage.
C'est génial.
Parce qu'on devait le faire l'année dernière, mais ça a été annulé.
Ah ben oui.
Donc, comme pour beaucoup d'autres. Hein. Mm. Donc voilà, mais bon, là, cette année, c'est bon.
Est-ce que votre malvoyance, elle est de naissance ou est-ce que c'est arrivé au cours de...
Non, c'est dû à un accident.
D'accord.
Un accident avec en rentrant dans une voiture. Ah. Enfin, c'est la voiture qui m'est rentrée dedans.
Vous aviez quel âge ?
Eh bien, j'avais 19 ans, 18, 19 ans.
19 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui, Laszlo ?
37.
Oh, vous êtes jeune.
Oui.
Un jeune futur marié.
Un jeune futur marié, voilà.
Ouais.
Je me souviens, il y avait eu un débat un soir sur les femmes, enfin les hommes, qui vivaient avec des femmes plus âgées.
Oui.
Et ma compagne a 30 ans de plus que moi.
Ah oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous aviez retenu de cette émission ?
Ben, j'avais retenu que ben, finalement, pardon, finalement qu'il y avait pas mal de monde qui comprenait. Parce que beaucoup de gens disent oui, alors le mot que j'ai horreur, c'est cougar. Ça,
oui.
Pour moi, c'est même pas la peine. Moi, j'estime quand deux personnes s'aiment, quel que soit l'âge, le sexe ou l'orientation sexuelle, du moment qu'ils soient heureux, moi, je dis c'est le principal.
Alors là, vous prêchez une convaincue. J'adore. Bah, bien évidemment. Bien évidemment.
Bien sûr, oui. Et comment vont vos chats ?
Comment ?
Comment vont vos chats ?
Alors, j'ai un chat. J'en ai pas plusieurs.
D'accord, je crois que vous en aviez plusieurs.
Je crois que c'est Sabine qui en a, qui doit en avoir
oui,
deux.
Oui, Sabine en a deux, oui, voilà.
Oui, Sabine en a deux et moi j'en ai un.
Voilà,
il va bien. Ouais, il va très très bien. Et d'ailleurs, je le sais.
Moi, j'ai deux petits loulous, c'est-à-dire deux petits chiens.
Ouais.
Qui sont. Là, ils sont avec moi sur le lit, ils écoutent la libre antenne.
Eh bien, une caresse pour vos deux chiens. Laszlo, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après les actualités de Roman Hockey, si vous voulez bien, qu'on continue peu à échanger sur, sur voilà, votre destin que vous prenez en main, manifestement. C'est formidable, vraiment extrêmement bien. En tout cas, merci infiniment de votre fidélité. Merci d'avoir eu l'opportunité et le courage de nous appeler ce soir. C'est toujours... non, mais c'est chouette.
Oui.
C'est vraiment sympa. Et puis de nous partager ça, c'est un grand merci.
D'accord.
Appelez-nous au 3921 à partir d'... Enfin, on se retrouve juste après les actualités.
La libre antenne d'Europe 1.
Sana Blanger accompagne vos nuits.
Alors, juste avant le flash de Roman Hockey, nous étions avec Laszlo. Qui est toujours là ?
Oui.
Merci, Laszlo. Vous savez que j'adore votre prénom ?
Ah, merci.
Ah, vraiment, il est très très beau. Laszlo, plein de belles choses pour vous, à savoir du bonheur dans votre vie affective.
Oui.
Voilà. Professionnellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Moi, je... je suis bénévole dans une association pour malvoyants, pour aider des personnes dont la nécessité est progressive, donc c'est-à-dire les habituer à prendre acte aux nouvelles activités, c'est-à-dire comme le braille. Donc voilà, j'ai beaucoup de manuels de braille pour apprendre le braille pour les jeunes ou les moins jeunes. D'ailleurs, quand il s'agit d'un accident, ce qui était mon cas, moi je voyais très bien, j'avais plus de 200 bouquins à la maison. Et puis du jour au lendemain, j'ai dit comment je vais faire. Bon, j'ai retroussé mes manches et j'ai allé dans une institution. Et puis j'ai dit je vais apprendre le braille parce que je ne vais pas m'arrêter de lire parce que je ne vois plus.
Oui.
Donc voilà. Bravo. Et puis, pour la petite anecdote, j'ai demandé la main de ma future femme à Venise.
J'allais vous poser la question. Vous m'avez devancé. Fantastique.
Je vous ai devancé.
Ah, bah, non, mais un vrai romantique, alors.
Oui, oui, oui.
Et elle a dit oui. Et c'était quand ?
Et elle a dit oui. C'était on est combien ? Le 15, donc c'était le mois dernier.
D'accord. Bon, voilà. C'est fantastique. Vous êtes dans quel coin, Laszlo ?
Sur le Limousin.
D'accord. C'était dans l'éventualité où vous aviez envie de communiquer sur votre association. Parce qu'il y a forcément des gens qui sont très, très à l'écoute, qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être accompagnés.
Oui.
Je dis ça, voilà, c'est juste une proposition. Mmh. Voilà.
Oui, oui. Ben, c'est les... moi, je travaille surtout avec les paralysés de France. Parce qu'en même temps, j'ai le mot au bout de la bouche, au bout de la langue.
Expliquez-le si vous n'avez pas le mot, expliquez-le.
Oui, c'est une association qui s'occupe des personnes à mobilité réduite et malvoyante, et qui est partout en France. On peut trouver ce centre partout en France. Et ils aident à faire parfois des voyages, des fois des choses plus, un peu plus avec une AS, hein, une assistance sociale, s'il y a des démarches à faire, pour exemple, un lit médicalisé s'il y a besoin. Enfin, il faut un accompagnement.
D'accord.
Donc voilà, et moi je me suis mis, quand j'ai perdu la vue, enfin, je n'ai pas perdu entièrement la vue, hein. J'ai la vision d'une petite assiette à soupe, en fait.
D'accord.
Voilà. Et donc, cette association, moi, je m'y suis inscrit. Et puis, l'APS, voilà.
L'APS.
La mère venue.
D'accord.
L'APF, l'Association des paralysés de France.
D'accord. Ah, l'APF.
Oui.
OK. D'accord. Alors, j'ai peut-être un candidat pour vous qui est en Bourgogne, qui s'appelle Max, et qui recherche une demoiselle charmante, voilà,
oui,
très sympa,
j'ai entendu.
N'est-ce pas ? Bon, je viens de regarder sur mon portable, il y a 4h36 de route entre le Limousin et la Bourgogne, mais il est prêt à déménager. Hein, je dis ça, je dis rien, il y a plein de cartons chez lui, prêt à être envoyé.
Prêt à être envoyé.
Voilà, on lui fait une petite dédicace.
Voilà.
Bon, mais en tout cas, un grand merci, Laszlo, pour votre témoignage. Merci de nous apporter de l'espoir, de la lumière. Voilà, c'est toujours un vrai bonheur quand on est à la Libre Antenne et qu'on écoute tous ces témoignages qui soit nous instruisent,
Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que la vie, comme on dit, n'est pas un long fleuve tranquille, mais si on arrive bien à naviguer, on arrive à bon port.
C'est vrai. Et là, vous voyez cette image-là, on l'a dédiée à Lucie qui nous avait contacté hier.
Voilà, oui. Donc,
merci. Oui, merci infiniment. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout mon vieux.
Je vous remercie
d'avance.
Et de cette façon, j'écoute toujours la Libre Antenne. Et je pense que ma future femme écoute aussi, parce que on n'est pas, pour le moment, on vit chacun dans un autre appartement.
D'accord.
On est très croyants, donc on respecte les choses. Voilà.
Et elle s'appelle comment, votre compagne ?
Bernadette.
Bernadette. Eh bien, on embrasse Bernadette. Elle a beaucoup de chance de vous avoir, vraiment. Et on pensera à vous le 17 décembre.
D'accord, c'est un vendredi.
Et c'est un vendredi en plus. Eh bien, c'est parfait.
Voilà.
Prenez bien soin de vous.
Merci à vous aussi, Sana. Et bien, encore merci à toute l'équipe. Au revoir.
Au revoir. Mmh. Nous recevons tout de suite Audrey. Bonsoir Audrey.
Je remercie tous les auditeurs et Laszlo, je le félicite pour son futur mariage.
Oui.
Alors moi j'ai des problèmes de vue, donc j'arrive quand même à avoir une activité professionnelle, donc j'admire le courage de toutes les personnes effectivement malvoyantes qui arrivent à surmonter cette épreuve et qui ont quand même de l'avant, qui foncent dans la vie, et c'est très bien.
Oui, il y a énormément d'admiration parce que on peut imaginer quand on perd quand même un des cinq sens, quand même, de se dire on se retrouve forcément démuni, désorienté. Ça ne doit pas être évident. Enfin, je peux imaginer que ce soit compliqué au départ. Donc,
Surtout que c'est un sens qui me semble assez important.
Oui.
Donc,
ouais, effectivement. Et donc, c'est ce que vous avez aussi, Audrey?
J'appelais, c'était suite à une rupture. Moi, j'écoute la libre antenne depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 40.
Waouh! Merci de votre fidélité.
J'écoute par intermittence. Voilà. Et donc, moi, c'était sur quand on quitte quelqu'un de dépressif, la culpabilité sur refaire sa vie quand on a quitté quelqu'un de dépressif, en fait.
Ah, effectivement, un sujet. Sensible également de se dire, est-ce que finalement on abandonne, parce qu'on a peut-être le sentiment d'abandon finalement, mais d'abandonner quelqu'un, c'est ça? Vous voulez nous en parler un petit peu plus? Vous voulez rentrer dans les détails, qu'on comprenne?
Oui, ça ne me dérange pas.
Moi non plus. Posons le cadre.
J'étais avec quelqu'un pendant plusieurs années, donc dès le départ, c'était quelqu'un d'assez dépressif, morose, donc en fait j'ai accepté ce problème-là, en sachant que c'était très dur de vivre effectivement ensemble avec ce problème. Donc en fait, il a alterné les périodes où je vivais chez ses parents et puis chez moi, parce que c'était très dur pour moi à gérer le travail et gérer les émotions de cette personne.
Une dépression très forte, c'est qui se manifestait comment?
C'est-à-dire que par des crises d'angoisse assez aiguës.
Ah, d'accord.
Et quelqu'un qui exprimait très peu ses émotions.
D'accord. Mais qui devait les réfréner, en fait.
Oui, voilà. Donc, c'était très dur pour moi de savoir un petit peu ce qui se passait dans sa tête. Se dire, je passe du temps avec lui et il fait la tête. Est-ce que c'est de ma faute, etc. Puis après, j'ai compris, effectivement, que c'était à cause de la dépression. Mmh. Et après, avec la crise Covid et tout ça, ça a un petit peu accentué son mal-être, je pense. Et donc, du coup, j'ai mis fin à la relation. Et effectivement, maintenant, j'ai une culpabilité de me dire, je reprends ma vie en main, mais je le laisse en plan.
Combien de temps, cette relation?
Quasiment 8 ans.
8 ans, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez des émotions de ce monsieur. Moi, j'ai envie de parler des sentiments de ce monsieur. Si il n'exprimait pas ou il réfrénait ses émotions, est-ce que néanmoins, il était un peu plus prolixe sur ses sentiments vis-à-vis de vous?
Une fois, il m'a dit « Sans toi, je n'y arriverai pas ».
Une seule fois en 8 ans?
Une seule fois.
Est-ce qu'il vous a déclamé au moins son amour ou jamais? Et vous êtes...
Régulièrement, mais je veux dire, après, quand c'est quotidien, est-ce que c'est une habitude?
Une routine.
Une routine, effectivement. Et donc, depuis que j'ai mis fin à la relation, il a coupé court un petit peu à tout échange. C'est-à-dire que je lui ai mis la vérité face au mur. C'est-à-dire, effectivement, ta dépression t'empêche d'avoir une vie professionnelle, t'empêche d'avoir une vie sociale, une vie sentimentale aussi. Et je pense que la vérité a été très dure à accepter.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous venez de redire le mot « accepter ». La vérité était très difficile à accepter. Pourquoi je vous dis la deuxième fois? Parce que vous avez démarré en disant « J'ai rencontré cet homme, je savais qu'il était dépressif et j'ai accepté ». Vous avez commencé par cette phrase-là, que j'ai notée. Et puis là, vous me dites, ça a été difficile d'accepter cette vérité. Finalement,
enfin, pour lui, je pense.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, et pour vous ?
Ben, je me suis mise entre parenthèses pendant des années.
Eh oui.
Et j'ai envie de reprendre ma vie en main parce que maintenant, ben, j'ai 40 ans. Et je culpabilise, en fait.
Alors, vous culpabilisez de quoi, Audrey ?
Je culpabilise de me dire, ben, et si lui va mal, est-ce que j'ai le droit de refaire ma vie ?
Et vous avez la réponse ?
Ben non.
Mais si, vous l'avez la réponse. Vous l'avez, puisque vous êtes partie.
C'était trop dur à gérer et à un moment à assumer aussi.
Ben oui.
Je pense qu'effectivement, on se sauve soi-même.
Surtout.
Et que là, ben, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait.
Donc c'est un constat où vous dites, voilà, j'ai donné 8 ans de ma vie. Et finalement, qu'est-ce que vous en avez retiré ou constaté de ces 8 ans ?
Constater ce que je veux plus. Et que j'ai eu beaucoup de sentiments pour lui et que maintenant je me dis, est-ce que j'en ai encore ou est-ce que c'est de la culpabilité qui me pousse à penser régulièrement à lui ?
Alors, qu'est-ce que vous n'acceptez plus aujourd'hui ? Ou qu'est-ce que vous n'acceptiez plus de cette relation qui vous a fait partir ?
C'est-à-dire que j'ai accepté de tout gérer, mais je n'ai pas accepté la méchanceté verbale vis-à-vis de moi.
D'accord.
C'est-à-dire que j'attendais un minimum de reconnaissance.
Donc, pas de merci. Pas... Et pourtant, il vous a sorti je ne pourrais pas y arriver sans toi.
Oui, voilà. Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse.
Ah oui.
Donc, oui.
D'accord. Donc, c'est ce besoin de vous sentir utile.
Voilà.
D'avoir ce syndrome de l'infirmière. De prendre soin de quelqu'un, mais qui a pris soin de vous ?
Personne, mais moi je suis quelqu'un de positif, donc moi je m'en sors toujours.
Ouais, jusqu'au jour où.
Oui, voilà.
Et c'est probablement ce que vous avez exprimé, c'est que vous êtes arrivé à la fin de j'ai peut-être envie de mettre mon énergie ailleurs. Peut-être, hein, je...
Oui,
ce ne sont que des hypothèses pour vous aider à avancer dans votre réflexion et dans le deuil de cette histoire.
Puis il y a la quarantaine, de se dire maintenant j'ai envie de vivre pour moi.
Ça, c'est un très très bon projet. Et j'ai envie de dire qu'il était temps. Parce que si vous n'avez pas réussi à vivre pour vous en étant à ses côtés, c'est que vous avez fait le bon choix aussi. Alors la culpabilité. C'est quoi ? C'est de la compassion ? C'est de la pitié ? C'est quoi, finalement ?
Je pense qu'au départ, c'était de la peur qu'il puisse faire quelque chose de mal contre lui. Puis après, je me suis rendu compte que malgré sa dépression, c'était quelqu'un d'assez narcissique, finalement, qui pensait aussi beaucoup à sa personne.
Oui.
Et maintenant, je me dis... J'aimerais être sûre, avant de vivre pour moi, que lui, il s'en sort.
Et si vous faisiez plutôt l'inverse ?
C'est-à-dire ?
D'abord, vous pensez à vous. Et puis, vous répondez à, encore une fois, comme je disais à Max en début d'émission, à vos envies, à vos besoins. À trouver votre bonheur à vous, dans un premier temps. Parce que tout ce que vous avez donné durant ces années n'ont pas donné grand-chose, manifestement, hormis le stabiliser, l'aider lui. Et je trouve que c'est extrêmement sain de se dire à un moment donné, mais et moi ? Et moi dans tout ça ? C'est ce que j'appelle l'égoïsme sain. C'est nécessaire. Donc, en fait, dès lors qu'on pense à soi, dès lors qu'on prend soin de soi, finalement, c'est pas être égoïste. C'est je prends soin de moi et finalement, comme je me sens bien, je suis en capacité de pouvoir partager et donner aux autres. Donc, c'est pour ça que finalement, on n'est pas si égoïste que ça. Et c'est pour ça que je mets
le terme sain. Là, en fait, je n'étais plus en capacité de donner quoi que ce soit.
Pour quelle raison ?
J'étais trop épuisée mentalement, au bout d'un moment, de dire ben, « je donne » et puis j'ai rien en retour et moi je me fatigue et j'ai même pas de merci. Quoi.
Donc ce sentiment de culpabilité, vous avez rompu quand, Audrey ?
Il y a 3 mois.
Oui, c'est encore tout frais, c'est encore tout frais. C'est encore tout frais, au bout de 8 ans. Vous imaginez toutes les habitudes, toute la routine, les rites que vous pouviez avoir. On se lève le matin, on a quand même quelqu'un à côté, etc. Bon, prenez confiance en vous. Voilà, c'est surtout ça. Cheminez, continuez à cheminer vers vous. Vraiment, je pense que vous avez pris la bonne décision. Et puis, dans le sens où c'est un break pour vous, vous allez vous occuper de vous. Enfin, et puis vous verrez si...
Après, il faut savoir ce qu'on veut, parce que c'est vrai que quand on pense pendant des années à quelqu'un d'autre, on oublie un petit peu
ce
dont on a envie.
Oui, oui, mais c'est exactement ça. Répondez aujourd'hui, enfin, à vos envies. Et puis vous verrez, une fois que vous vous sentirez vraiment bien, si vous avez encore envie de laisser une place à cet homme. On n'est pas obligé de se dire, voilà, ça y est, c'est terminé, c'est fini... Vous n'avez que 40 ans. J'arrête pas de dire en ce moment, je suis très fan de cette phrase, on a toute la vie devant nous. Non mais c'est vrai, regardez devant. Regardez devant, Audrey.
Moi, personnellement, je sais que je n'ai plus de sentiments amoureux à son égard. Hein. Pour moi, c'est clair. Mais c'est vrai que je reste un petit peu... Si je savais qu'il avait quelqu'un d'autre, à la limite, ce serait la responsabilité de quelqu'un d'autre.
Ah ouais, à ce point-là ?
Oui, je pense que ça me ferait du bien de me dire, ça y est, c'est quelqu'un d'autre qui prend en charge.
Ah ouais, c'est vraiment ce sentiment d'être utile. Hein, Bah, écoutez, vous pouvez lui faire confiance si vous dites que c'est quelqu'un qui a une haute estime de lui-même. Il va trouver. Mais pensez à vous d'abord. Vraiment, pensez à vous. Et ce sentiment de culpabilité, il a peut-être une source ailleurs que celle de votre conjoint et du fait de rompre, en fait. C'est peut-être autre chose que vraiment de la culpabilité.
Je vois pas trop, en fait.
Ça ne fait que 3 mois.
Hein. Oui. Ouais, donc c'est... À part de la culpabilité, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre quand... En plus, vous l'avez dit, hein, vous avez dit, s'il rencontre quelqu'un d'autre, alors là, ce serait fantastique. Donc là, il y a plein de sentiments qui peuvent se coller à ce genre de situation. Moi, ce que je vois surtout, c'est dans un premier temps, surtout une prise de conscience de ce qui s'est passé, que vous avez envie de donner du sens à votre vie, que vous aspirez à de belles choses pour vous.
À 40 ans, oui, justement, ouais. Comme j'ai la vie devant moi, j'aspire un petit peu.
Et je dirais plus que c'est peut-être quelque part un sentiment d'échec, plus que de culpabilité, par exemple, en se disant, mince, j'ai donné 8 ans de ma vie et ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, là déjà, on pousse le curseur vers l'échec et non pas la culpabilité. Hein, de se dire, mince, je suis pas arrivée et pourtant, j'ai donné. Alors, quand on est dans un... Pardonnez-moi.
Quand on est entre 30 et 40 ans, c'est les belles années de notre vie qu'on donne.
Bah oui. Oui, absolument. Pas d'enfant ? Forcément, on y pense. Hein.
Non, pas d'enfant. Non. C'était un choix commun.
D'accord. Donc, oui, ça peut être un sentiment d'échec. Se dire, mince, voilà, je n'y suis pas... nous n'y sommes pas arrivés. Nous n'y sommes pas arrivés. Et ça, ça peut mettre un peu de temps également à faire en sorte que finalement on en tire des leçons. Et c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que vous retenez de ces 8 années passées avec cet homme que vous ne réitérerez plus avec le prochain. Qu'est-ce que vous avez découvert?
Je trouve que pendant que j'ai fait tous ces efforts pour lui, les derniers temps, il m'aura baissé à me dire que ma vie à moi était nulle. J'ai effectivement beaucoup de mal à rebondir, quoi.
Ça, c'est normal. C'est très souvent la phrase des personnes qui ne s'aiment pas. Quand on ne s'aime pas, on n'accepte pas que quelqu'un puisse nous aimer. On se dit, mais comment est-ce qu'elle peut m'aimer alors que moi, barque, je ne m'aime pas du tout. Je n'accepte pas ma vie, je n'assume rien. Donc, on peut pas aimer quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Et pourtant.
Je suis mélangée entre échec, effectivement, culpabilité et plus ou moins pitié, effectivement. Pour lui,
oui. Ah, c'est terrible. Il vaut mieux pas qu'il vous entende.
Je trouve ça triste pour lui, oui. Parce que je me dis, il est encore jeune et finalement, sa vie lui échappe.
Vous avez tout fait pour l'aider. Maintenant, c'est de son ressort à lui. Il faut qu'il s'en sorte. Si cette rupture peut l'aider, si ça peut lui faire un électrochoc, eh ben, ça serait une bonne chose pour lui. Donc vous l'aurez aidé quelque part.
Ben, je pense pas, mais bon, j'aimerais.
Audrey, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après une petite page de pub. Ça vous va?
C'est parfait, je vous remercie.
À tout de suite.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Nous retrouvons Audrey qui vit ça. Est-ce que c'est votre première rupture, Audrey?
Non.
Vous avez déjà rompu, de votre propre initiative, vous avez déjà rompu?
Oui, c'est souvent à mon initiative.
Et est-ce que vous aviez déjà ressenti ce sentiment de culpabilité, enfin que vous appelez vous vraiment, hein, entre guillemets, culpabilité?
Non, c'est la première fois.
Et selon vous, qu'est-ce qui fait la différence avec les autres?
C'est sa forte expression de son mal-être.
D'accord. Oui, donc il a vraiment été très, très, très impactant sur votre personnalité.
C'est très dur quand on entend son conjoint dire « si j'avais le courage, je mettrais fin à mes jours ».
Oui. Oui, c'est sûr. Oui, donc c'est pour ça il a ancré des choses quand même qui font que vous aviez peur au début, puis finalement vous voyez bien qu'il est toujours là. Vous avez des contacts encore ou pas du tout?
Non. Depuis que je lui ai dit qu'effectivement ça l'empêchait d'avoir une vie sociale, professionnelle, etc., il a coupé court en fait. Je pense que ça. La vérité était peut-être trop violente.
Mmh. Je comprends.
Pour lui.
Oui, on peut comprendre aussi. Mmh. On peut comprendre aussi. Et vous, alors Audrey, comment est-ce que vous imaginez votre futur Comment est-ce que vous...
Apaisé.
Apaisé. Est-ce que vous avez déjà envie de éventuellement raccrocher ou accrocher votre barque à une autre ou...
Oui.
Je vous dis ça parce que pendant la pub, j'ai Bastien qui est venu me voir et il m'a dit voilà, j'ai reçu 2 appels pour Audrey.
Ah, c'est sympa.
Donc, il ne faudra surtout pas raccrocher. Et on vous gardera pour vous communiquer le numéro de ces 2 prétendants.
Et c'est effectivement pas évident de se dire oui, comme je disais tout à l'heure, si je savais que c'était maintenant ses soucis, c'était de la responsabilité d'une autre personne, je serais soulagée. En fait.
J'espère que vous ferez le deuil de votre histoire, parce que là, pour le moment, c'est pas encore terminé. Et vraiment, vous y arriverez, Audrey, si vous vous dites « qu'est-ce que j'ai appris ?» Qu'est-ce que je retiens de mes 8 ans auprès de cet homme?
Ben, pas... du positif, il y a beaucoup de négatifs malheureusement. Et des fois, j'ai envie qu'ils me disent « Je me rends compte de tout ce que tu as fait, reviens. »
Ah oui.
Et ouais, ça c'est... je pense qu'il y a mon ego effectivement, qui en a pris un coup.
C'est pour ça que je parlais de sentiment d'échec. Bien sûr que l'ego joue, forcément. Forcément que l'ego joue. Quand on est dans la rupture, je pense que toutes les auditrices, même les auditeurs, mais voilà, je vais être solidaire ce soir avec vous, Audrey. On rêve toutes que lorsqu'on rompt, même quand c'est de notre propre initiative, que finalement ça rampe et qu'on nous dise mais jamais je ne rencontrerai une femme comme toi.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je sais que je ne l'aime plus, mais j'ai envie qu'ils me disent oh là là, mais avec tout ce que tu as fait pour moi, mais tu es vraiment une femme exceptionnelle.
Exceptionnelle. Et je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme toi, mais jamais. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je ne sais pas, je vous le souhaite, mais je suis sûre que vous êtes quelqu'un.
Je me souhaite à moi aussi, mais je ne pars pas d'un côté négatif en me disant ça n'arrivera pas. Je me dis pas effectivement ça va arriver quand je me sentirai prête.
Bien sûr.
Mais j'ai mal pour lui parce que quand on a aimé quelqu'un pendant des années, ça fait de la peine de voir qu'une personne est en souffrance et finalement j'ai l'impression qu'il se complaît dans cette souffrance.
Oui, oui et re-oui. Maintenant, la dépression, c'est très compliqué d'en sortir également. Vous aviez accepté ça au départ comme un challenge, peut-être comme un défi en vous disant, avec mon ego, je vais réussir, moi, en tant que Audrey, en tant que femme, en tant qu'aimante, je vais le sortir de là.
Mais... à la base, on se dit que c'est passager, on se dit, c'est un mauvais coup, ça arrive à tout le monde. Et puis après, les années font, et puis on se dit, et quand la méchanceté s'installe, là, je ne pouvais plus.
C'est exactement ce que j'allais vous dire.
Par respect pour moi.
Oui, c'est pas possible. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est constamment dans la méchanceté. Ça épuise. Et puis finalement, après, on se rend malade.
Et puis quand on dit, il y a telle ou telle solution, je t'accompagnerai. Et qu'on vous dit non, personne ne peut m'aider.
Ce qui est très intéressant pour vous, c'est de comprendre éventuellement, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une TCC. Une thérapie comportementale et cognitive, ce sont des thérapies brèves. Mais ça peut vous éclairer sur pour quelles raisons est-ce que vous avez accepté. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté, à partir du moment où vous vous êtes rendu compte que vous ne pourrez pas l'aider, qu'il était, c'était terminé, qu'il n'y avait plus de solution, qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à accepter cela? Ça peut vous aider.
Oui, effectivement. Effectivement, ça peut être à creuser.
Oui, absolument, puisque manifestement, c'est ce que vous avez décidé de faire, c'est prendre soin de vous, et c'est admirable. Alors, on a compris, il ne reviendra pas en vous disant que vous êtes un être exceptionnel, mais moi, je peux vous dire que vous êtes quelqu'un d'unique. Donc ça, faut capitaliser là-dessus. Ok.
D'accord, je vous remercie.
Mais je vous en prie, Audrey.
Je remercie tous les auditeurs pour m'avoir écouté.
Et d'avoir appelé. Il y en a deux qui
vous
attendent.
Et d'avoir appelé. D'accord, moi c'est très gentil, je vous remercie.
Prenez soin de vous, Audrey, à très bientôt.
Et vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Sana Blanger est à votre écoute sur Europe 1.
Nous accueillons tout de suite Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Oui. Je suis là.
Moi aussi.
Tant mieux.
Qu'est-ce qui vous arrive alors, Marie-Christine?
Oh là là, c'est une longue histoire. D'abord, je vais avoir 75 ans le 7 août.
Oui.
Donc, je ne suis pas une très jeune fille.
C'est bientôt.
Oui, c'est pas très loin. Bon. Et puis, j'ai eu une vie amoureuse, complète. Hélas, mon mari est décédé de la maladie de l'Alzheimer.
Ah, je suis désolée. C'était il y a combien de temps ?
Et je m'en suis occupée pendant 10 années. 10 années. C'était incroyable. Parce que c'était un homme extraordinaire. Il était dirigeant de société. Et puis, je me suis aperçue, lors d'une conversation, qu'il y avait un problème. Et je lui ai dit, mais tu m'as déjà dit ça. Il n'avait pas l'air de comprendre. Puis je l'ai emmené à l'hôpital.
Oui.
On lui a fait des examens. Et puis, voilà. Il m'a dit, bon, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans sa tête. Et c'était Alzheimer. Et puis, je m'en suis occupée pendant 10 ans.
Mmh.
10 ans. Et je ne sais pas si on peut imaginer ce qui se passe avec un homme qui perd la tête, qui conduit quand même sa voiture.
Ah oui.
Qui se perd, qui se fait arrêter par les flics, qui le ramène à la maison. Il est tout content et qui rigole avec les attends, excusez-moi, j'ai dit les flics, c'est pas très bien. Les policiers.
Avec la police.
Et puis, avec la police. Puis, il rigole et puis il dit Ah, j'ai été vraiment bien avec eux. Non, ça prouvait qu'il n'était pas bien. Et puis, petit à petit, comme ça, tout se dégradait, quoi. Ça a été effrayant.
Oui, vous avez vécu.
Puis il est décédé dans mes bras.
Il y a combien de temps, Marie-Christine ?
Le 18 novembre 2018.
D'accord.
Exactement. Et j'avais pris une... il était allé dans une maison de retraite, un EHPAD.
Oui.
Je ne sais plus comment on dit ça. Et puis, parce que c'était plus possible pour moi, 10 ans,
bien sûr.
À gérer. Il téléphonait, il appelait, il me dérivait. Je ne peux pas raconter tout ce qui se passait. C'est ça la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a un oubli de tout ce qui se passe à côté.
Oui,
et j'ai supporté ça pendant 10 ans.
Donc,
Il est mort, il est mort dans mes bras. J'étais la seule personne qu'il reconnaissait. Et
d'accord.
Il est mort dans mes bras en me disant, ma petite Minette, parce qu'il m'appelait comme ça à la fin, ma petite Minette, je t'aime. Et il est mort dans mes bras. J'ai plus qu'à appeler l'infirmière pour dire, ça y est, c'est fini.
Mmh.
Et puis depuis, c'est difficile de vivre. Les enfants, ils ont leur vie. Et je suis très seule. Et puis, ils ne pensent pas à me téléphoner. Je me dis qu'ils ont leur vie, c'est normal, mais ils ne m'appellent jamais.
Jamais, jamais,
jamais. Jamais, jamais, jamais.
Vous avez combien d'enfants, Marie-Christine ?
Trois. Un garçon et 2 filles. La dernière fois que nous sommes vus, c'était à Noël. Et puis, mais il ne téléphone pas. Puis j'avais ma petite fille dernière, enfin, elle est quand même grande, elle a 40 ans. Mais c'est une petite spécialité, on va dire, parce qu'elle vit dans la montagne, dans l'Ariège.
D'accord.
Comme on dit, dans un trou perdu, ravitaillé par les corbeaux. Elle vit dans une yourte avec son copain, elle s'occupe de chevaux, etc. Et puis jusqu'à présent, elle me téléphonait régulièrement, on se faisait des petits messages sur le téléphone, c'est un SMS. Puis depuis un certain temps, elle ne m'appelle plus.
Comment vous l'expliquez ?
Alors,
Marie-Christine ?
Alors, je pense que elle me l'a dit un petit peu, j'ai compris. Elle me l'a dit parce que souvent, quand on s'appelait, je parlais trop de son père, des problèmes qu'il y avait eu, et de ma solitude. Parce que pour moi, c'est la solitude maintenant, depuis un certain nombre d'années. Mmh. Et donc, je pense que je l'ai ennuyé avec mes... Sans vouloir la... Je ne voulais pas l'embêter.
Je vois tout à fait.
Je pense que elle a été ennuyée par de savoir que j'allais pas bien. Et puis donc maintenant le téléphone ne sonne plus. Puis, mes deux aînés, ils ont leur vie. Et bon, donc je me retrouve toute seule et j'ai envie de mourir. Parce que ça sert plus à rien que je sois là.
Oui.
Voilà.
Enfin...
Donc, je sais que là où j'habite, il y a des voitures qui roulent très vite.
Ah oui,
pas
donc...
très facile.
Ah oui, vous êtes carrément visualisé le moment, le comment ça pourrait se passer. Donc, vous avez des idées noires,
oui.
Clairement.
Oui.
Bon.
Parce que c'est plus possible maintenant. Je n'ai pas de projet, j'ai 75 ans, donc ma vie est finie maintenant, c'est terminé.
Non, je ne pense pas. Vous semblez être en bonne santé physique.
Hélas, je suis tombée et j'ai mon épaule. Bon, ça c'est vraiment. J'ai essayé d'en rigoler. J'ai mon épaule droite qui s'est cassée, donc depuis le mois de... Ça fait un an, donc moi je connais l'hôpital par cœur.
Oui.
Et maintenant je suis handicapée de la main droite, de l'épaule droite. Et donc il y a plein de choses que je ne peux plus faire toute seule, mais que je fais quand même, j'essaye de me débrouiller.
D'accord, donc ça je pense que... Ça doit en plus contribuer à ce que vous ayez ces idées noires, vous qui avez tant donné.
Oui. Je me dis que ça ne sert plus à rien.
C'est dommage de penser ça. Maintenant, j'entends. Hein, j'entends ce que vous dites. Je comprends que vous puissiez être dans une phase pas forcément manifestement positive. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez la solution, vous l'avez dite. Vous l'avez donné, Marie-Christine.
Ah bon ?
Oui, vous l'avez donné. Vous avez dit, je n'ai pas de projet.
Bah non.
Donc vous avez la solution. Trouvez un projet. Vous l'avez.
J'ai pas envie d'avoir de projet.
Pour quelle raison ?
Parce que je suis handicapée maintenant, de mon épaule droite. Je ne peux plus lever mon bras. Je ne peux plus. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Donc, je ne vois pas pourquoi je vivrais encore
pour
plus longtemps.
Si je puis me permettre, donc pour une épaule et un bras, donc vous remettez complètement toute votre vie en question, c'est ça ?
Ben oui, parce que mes enfants, bon, ben ils ont leur vie. Je ne leur en veux pas du tout. Je ne leur en veux pas du tout.
Même pas un petit peu ?
Mais moi. J'en veux un petit peu à ma dernière fille, parce qu'on était très copines, elle est adorable. Et puis, bon, bah, peut-être que je l'ai ennuyée, j'en sais rien. Mais moi, je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien. Donc, je suis obligée de me débrouiller toute seule avec mon handicap. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à vivre. Voilà.
Alors, parce que la vie continue. Vous avez entendu les témoignages juste avant de Max,
oui.
De
oui.
Laszlo.
Oui, j'ai écouté.
Il ne
oui.
voit plus. Il ne voit quasiment plus rien.
Il y a pire que ma situation.
Absolument.
Je suis d'accord.
Et pourtant, vous avez vu comment il véhicule de l'énergie en disant il y a toujours des solutions.
Ben oui, parce qu'il a certainement une force en lui.
Vous, vous êtes juste épuisée.
Et que je n'ai pas.
Parce que vous êtes fatiguée, Marie-Christine.
Je suis
c'est tout.
Épuisée.
Voilà.
C'est le mot qui convient. C'est le mot qui convient. Parce que ça fait... je me suis occupée de mon mari pendant 10 ans.
C'est ça.
Je pense que vous pouvez imaginer ce que c'est que de s'occuper de quelqu'un qui est Alzheimer, qui fait qui sort, qui bouge, qui fait n'importe quoi et qu'on est toujours obligé de rattraper. C'était infernal, c'était infernal.
Ah,
c'est épuisant.
Alors, je peux l'imaginer, je vais vous raconter une anecdote. Je parle pas souvent de moi, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle pas souvent de nous, mais voilà, j'ai mes parents qui sont partis, et j'avais à l'époque 14 ans, et ils ont trouvé une babysitter. Ils se sont dit, bah tiens, on va appeler une dame qu'ils connaissent très bien, et donc cette dame s'est occupée de mon frère et de ma sœur, enfin, et de ma sœur et de moi. Donc, dame, en fait, il ne s'était pas rendu compte que ça n'allait pas. Et en fait, elle est restée une semaine à s'occuper de nous, mais finalement, c'est moi qui me suis occupée d'elle, parce qu'elle oubliait d'éteindre le gaz, par exemple.
D'accord.
Donc, on aurait pu mourir asphyxiée. Elle a jeté mon chat par la fenêtre. Vous voyez, c'était vraiment... ça a été une semaine extrêmement...
Un gros souci.
Un énorme souci. Donc, je peux imaginer qu'au bout de 10 ans, vous soyez épuisée. Maintenant, il y a de très très belles choses encore à faire.
Je peux pas tout raconter ce qui s'est passé pendant 10 ans, mais je vous assure que c'était constamment.
Oui. Donc là, c'est du repos qu'il vous faut, Marie-Christine, s'il vous plaît.
Ben là, je suis en repos là, puisque maintenant je suis seule chez moi, mais c'est trop vide. Enfin, donc je pense que ma vie est terminée. Ma vie est terminée.
Moi, j'aimerais tellement vous convaincre du contraire.
J'ai vécu tant de choses. J'ai fait beaucoup de choses avec mon mari, beaucoup, beaucoup de voyages, beaucoup de choses. C'était génial. Et puis les 10 ans d'Alzheimer, c'était terrible. Mm. Et puis maintenant, mes enfants ont leur vie. Et puis moi, je pense que avec mon handicap maintenant, ma chute... complètement idiote qui s'est produit l'année dernière et mon incapacité maintenant à faire beaucoup de choses correctement. Bon, je me dis, ça y est, c'est terminé. C'est fini.
Non.
Je vois pas. J'ai 75 balais, comme on dit maintenant.
Ouais. Mais
je vais pas aller... Qu'est-ce que je vais attendre de la vie? Rien du tout.
Mais si, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Là, clairement, hein, si vous avez des idées noires déjà, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes en dépression. Donc la première chose à faire, peut-être, et c'est vraiment clairement ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir un psy.
J'en ai un.
Alors changez-le. parce que si vous en
Écoutez, êtes... franchement, ouais. Je me suis... Alors ce que vous me dites là, je vais pour l'instant, faire un sourire, ça m'arrive pas souvent, mais j'y ai pensé.
Eh oui, non, vraiment. C'est quoi? C'est un psychologue? Ouais, c'est un psychiatre, c'est.
Non, c'est un vrai psychiatre. Enfin, un vrai psychiatre.
Un vrai, oui, vous voyez? Mais vous dites un vrai. Vous habitez dans quel coin, Marie-Christine?
J'habite à Nantes.
À Nantes.
Dans le Loire-Atlantique.
D'accord. Pas d'amis? Pas de famille? Hormis, je parle des frères.
Non. J'ai mes enfants, mais ils ne sont pas à Nantes.
Mais des frères, des sœurs, vous avez une famille?
J'ai deux sœurs. Ben oui, mais je suis vieille maintenant. Les parents sont décédés. J'ai deux sœurs, oui.
Alors,
on se voit de temps en temps. Mais là, depuis, je veux dire, comme je vous ai dit, j'ai eu ce problème de chute... au mois de juillet l'année dernière. Et le CHU de Nantes, je connais bien, je peux vous dire.
Oui, c'est ce que vous nous disiez. Moi, je pense que vous êtes une vraie force de la nature, mais vraiment une vraie force de la nature, que vous avez toujours soutenu tout le monde, et que là, parce que vous avez un souci, un gros souci, un handicap qui se manifeste au niveau de votre épaule et votre main, vous vous sentez démuni. Mais vous n'avez pas le droit de dire que vous ne servez plus à rien et que vous n'êtes plus utile dans cette planète. Ça n'est pas possible.
Je ne peux même plus conduire maintenant.
Eh bien, on vous trouvera des personnes pour vous conduire.
Je marche à pied.
Ben voilà.
Le kiné qui m'a suivi pendant 6 mois, 8 mois, j'ai eu 82 séances de ciné, hein, vous imaginez un peu. Bon. Il m'a dit, il faut marcher. Alors, je marche.
Oui, il faut marcher. Vous savez quoi?
Je marche, mais je suis très obéissante.
Bon, alors ça tombe bien parce que j'ai une pub à passer, donc je vous retrouve juste après. Ça vous va? Vous restez avec nous.
D'accord.
Hein. Allez, à tout de suite.
Oui.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Marie-Christine, vous êtes toujours là?
Oui, bon. Je suis toujours là. Oui,
bah, fantastique. Je suis en train de regarder sur Internet Nantes, les associations où vous pourriez, vous, encore continuer à proposer votre soutien. Vous êtes une femme forte, je le disais juste avant la publicité, vous avez toujours...
Je me le demande, vous êtes trop gentille là.
C'est pas une question de gentillesse, moi ce que je veux surtout que vous reteniez, vraiment, c'est que vous avez toujours été un soutien important pour votre famille.
Oui.
Vous avez des amis?
Non, pas vraiment.
Peut-être qu'ils se sont éloignés.
Pendant la vie d'avant, mais plus maintenant.
Alors justement,
ça s'est dispersé.
Alors ça se disperse aussi, vous savez, Alzheimer, ça fait peur à tout le monde.
Ben voilà.
Ça fait peur à tout le monde. Donc forcément, il y a de la casse au passage. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu vos amis. Vous pouvez les retrouver. C'est comme la famille. Vous pouvez également...
Ils sont un petit peu lointains maintenant dans mon esprit.
Bah, l'amitié...
Il y a eu une cassure, forcément. J'ai été occupée par mon mari.
Mais on ne vous en voudra jamais. Vos vrais amis ne vous en voudront jamais.
Je ne me souviens plus de leur nom.
Ah, ça, c'est
J'ai des pertes de mémoire en plus maintenant. Ça, c'est le gros problème que j'ai.
Ça, c'est peut-être lié à vos médicaments. Attention, hein. C'est pas lié à la vieillesse. C'est lié certainement. Oui. Ça peut être lié si on vous donne en plus des antidouleurs du type opiacé. Ça joue également sur la mémoire. Donc vraiment,
Je prends comme médicament contre. Des antidouleurs, oui. Comme vous
voilà,
dites.
Des opiacés, ça peut être de l'X.
Parce que j'ai mal au bras, mal à l'épaule et tout. Bon.
Ça peut être du tramadol, de l'X-prime, des choses très très fortes. Vous savez quoi, Marie-Christine? Moi, parce que l'émission se termine.
Mais je ne veux pas me plaindre,
Non. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se.
Mais moi, je veux mourir, je veux disparaître.
Non, mais moi, je ne vous laisserai pas comme ça disparaître. Et
ce sera ce serait vraiment la bonne solution.
Et en plus,
il y a des routes à Nantes, il y a beaucoup de voitures qui roulent vite.
Non, mais là, parce que vous parlez vite. Mais non, moi, je ne vous laisserai pas comme ça. En plus, il y a plein de personnes qui souhaiteraient vous appeler. Donc, au standard, ça a complètement explosé. Donc, il y a plein de gens qui voudraient...
Voilà.
Ah oui, ouais, je suis désolée. Hein.
Je ne suis pas grand-chose. Hein.
Non, arrêtez. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain soir, si vous êtes d'accord. Je commence l'émission avec vous. Et vous allez avoir pas mal d'appels et moi je vous lâche pas. Si tout le monde vous a lâché, moi je vous lâche pas. D'accord, Marie-Christine?
D'accord, bah oui, bah je serai là, je suis tout le temps là.
Et bah parfait. Je vous embrasse et je vous dis à demain soir.
Merci de votre accueil en tout cas.
C'est normal.
Et puis
à très bientôt.
J'espère, je serai toujours vivante demain.
Oh mais oui.
En attendant votre accueil.
Je compte sur vous. Je vous embrasse et prenez soin de vous.
Oui,
à demain.
Moi aussi.